Monsieur Bobby, le soleil filtrait par les fentes de l'unique volet. Dehors, les tourterelles roucoulaient. J'étais en sueur. L'armoire métallique où il entreposait ses cartouches était ouverte et son fusil était posé sur un petit établi au fond de la pièce. Il devait être en train de le préparer pour la chasse qui allait ouvrir le lendemain. En pénétrant cette zone interdite, j'avais le sentiment d'enfreindre une loi sacrée, mais une force irrésistible me poussait à agir. Je me suis approché de l'établi, avec la ferme intention d'emporter le fusil, et d'aller le cacher quelque part, peut-être de l'enterrer dans les bois. Il pourrait la chercher, sa pétoire. Pas de pitié pour les assassins! J'avais le fusil dans les mains, quand j'ai avisé les photos affichées au mur. Mes parents, le jour de leur mariage, moi bébé, assis sur le dos de Bobby. Bobby encore, une perdrix dans la gueule et mon père agenouillé lui flattant l'encolure. J'ai entendu la voiture de ma mère qui faisait crisser les graviers de la cour. Mon père s'est retourné dans son sommeil. J'ai foncé vers la porte, le cœur battant, me suis pris les pieds dans un tabouret, lâchant le fusil pour garder mon équilibre. Les deux canons ont craché leur charge en même temps. Je me suis retrouvé au sol parmi des débris de toutes sortes sonnés par la détonation. Il y avait un trou énorme dans le plafond. Mon père était assis sur le lit, hébété, couvert de débris de plâtre. J'ai voulu m'échapper. Il a bondi, m'a saisi le bras, puis s'est mis à me secouer comme un prunier en hurlant « Bon sang de poids, c'est pas possible, t'es vraiment cinglé !» Ma mère s'est précipitée dans le cabouin. Papa a crié « Laisse-nous, c'est une histoire entre hommes !» J'attendais mon exécution en tremblant, certain qu'il allait me frapper et peut-être me tuer. Au lieu de cela, il contemplait les dégâts en me tenant par la peau du cou. Il a ramassé le fusil en disant d'une voix mal maîtrisée « Ben mon vieux, qu'est-ce qui t'a pris ? Fallait pas tuer Bobby ! Je voulais cacher ton fusil !»
De la chute. Nous redoutions particulièrement Corda, le prof de maths. Un type osseux, sans aménité, qui se tenait toujours un peu cambré, sans doute pour compenser le poids d'un nez disproportionné qui lui valait le surnom de gros. Ce pervers tendait son doigt décharné vers un groupe d'élèves. Et brusquement, au moment où l'autre partie de la classe croyait échapper à son interrogatoire, virait de bord à 180 degrés, changeait de cible et désignait un élève totalement déstabilisé. Alexandre fut la victime de ce petit jeu dès le jour de la rentrée. Il redoublait sa classe de quatrième, bien résolu à passer inaperçu, mais le doigt de gros pif le fusilla à bout portant avec la précision d'un missile, le condamnant d'emblée à révéler ses lacunes en géométrie. Il se rendit au tableau et bredouilla une réponse inepte devant un Corda qui se régalait outrageusement de son désarroi. Alexandre, qui n'avait sans doute jamais su ce qu'était un cercle circonscrit au triangle, compensa sa déconfiture par une facétie dont les élèves et les enseignants allaient être les spectateurs un certain nombre de fois tout au long de cette lamentable année scolaire. Sous la vindicte de Corda, il vacilla, porta les mains à sa poitrine et ouvrit grand la bouche, telle une carpe jetée sur l'herbe. Il émettait de petits couinements suivis d'expirations du genre qui pouvaient faire penser à une crise d'asthme paroxystique. Devenu cramoisi, il s'affala d'un bloc avant de rouler au pied de Corda, tandis que la classe, dans un bel ensemble, lâchait un « Oh, miséricordieux !» Corda s'approcha du gisant et lui tâta les côtes du pied. Avant d'ordonner très maître de lui, « Emmenez-moi ça à l'infirmerie. » les parents d'Alexandre, vinrent le chercher avant le repas de midi. Et leur médecin de famille, évoquant un malaise vagal, ordonna à leur fils un repos de quelques jours. C'était toujours ça de gagner. À son retour en classe, juste avant un contrôle de maths, Berthaud renouvela son exploit de manière plus originale encore. Alors que les élèves montaient en classe, il lança un cri déchirant avant de basculer dans l'escalier et de rouler jusqu'au bas des marches où il s'immobilisa. Misérable marionnette désarticulée. Gros pif en perdit son légendaire sang-froid.
Dans le cadre posé sur le buffet en faux acajou, une photo de sa tribu. Lui, au centre. Assis exactement à l'aplomb du lustre familial, le pater familias expose sa lueur gélatineuse, sa tremblante tyrannie. Il aime le calme, la silencieuse retombée des poussières. L'indocilité bruyante de sa marmaille le renvoie à l'inconfort permanent de sa propre enfance. Jamais tranquille, jamais à l'abri d'un coup de gueule, d'un coup de pied. Exactement ce qu'il fait subir à sa progéniture au nom de la sérénité qu'il aimerait trouver après sa journée de travail. Repas de famille. Son nez veiné de bleu brille à la table des dimanches encombrée de verres souillés et d'enfants ennuyés, le cul boulonné aux chaises droites. Pas parler, pas bouger, pas rire, seulement se moquer intérieurement des vaticinations du grand-père Rabiot et subir les plaisanteries éculées du tonton Nabo, des mauvais qui, mouillés d'alcool, rampent sur les taches de la nappe. Jalousé par son frère, calé entre le mépris de sa future veuve et le haineux silence de ses descendants, le père crachote ses amertumes. Du noyau de sa graisseuse enveloppe, le grincement radoteur de ses stéréotypes réactionnaires refait le monde. Le monde refait se fige dans la sauce saindoux du rôti et l'amour échalote, lui, verrue brûlée à la surface de la viande. Oublieux de la tare familiale inconsciemment entretenue par des générations de soumis, ces rejetons sécrètent une amère bile et dans leurs yeux miradors défilent des hospices où aucun visiteur ne vient. Ployant sa fourchette sous le poids de ses doigts graisseux et épais, le père s'abstrait. Il retrouve un instant des bribes de mémoire. Le goût sucré des violettes sussautées en revenant de l'école, le parfum torsadé des chèvrefeuilles étrangleurs. Il soupire. Le dernier verre de marc après le café. Regard noyé, il roule des miettes de vie contre ses ongles endeuillés et marmonne des sons inaudibles. Borborygme fondu dans la digestion collective, velléités qui titubent hors de leur morne caveau et finissent par un rot. Faudrait une bonne guerre!